Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, le débat regard sur Taïwan à une semaine des élections présidentielles et législatives. Nous retrouvons nos invités par téléphone depuis Taïwan, Stéphane Korkuff, maître de conférence en politique chinoise à Sciences Po Lyon, chercheur à l'Institut d'Asie orientale en délégation au Centre d'études français sur la Chine contemporaine à l'antenne de Taipei, et en studio Jean-François Dimeglio, président de Asia Centre, et Jean-Pierre Cabestan que nous accueillons pour cette deuxième partie d'émission. Jean-Pierre Cabestan qui est professeur et chef du département d'études internationales à la faculté de sciences sociale à l'Université Baptiste de Hong Kong. Bonjour Jean-Pierre Cabestan.
Bonjour.
Donc ces élections présidentielles et législatives à Taïwan où le président sortant Ma Ying-jeou brigue un deuxième mandat. Une élection, nous l'avons dit dans la première partie de cette émission, dans laquelle la question de la relation avec la Chine est véritablement au centre. Stéphane Korkuff, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que l'on sait au jour d'aujourd'hui de la stratégie chinoise vis-à-vis de Taïwan ?
Vaste question, je pense que je laisserai Jean-Pierre répondre sur ce sujet sur lequel il excelle, mais brièvement, puisque vous avez la gentillesse de me donner la parole, je pense qu'aujourd'hui, la Chine a fait preuve de beaucoup de connaissances, de pas mal de réalisme sur ce qui se passe à Taïwan, me semble-t-il, et ils ont pris en compte, je pense, le fait qu'il y a une possibilité que Taïwan soit élu et que, au cas où elle le soit, ça ne serait pas du tout dans leur intérêt de remettre en cause ce qui s'est passé pendant toutes ces années avec Ma, d'autant plus que, comme on vient de le dire dans la première partie, le camp vert du DPP a mis beaucoup d'eau dans son vin et regarde lui-même les choses avec beaucoup de réalisme. Donc on peut penser que si Tsai est élu, en gros, le développement continuera sans doute dans un rythme légèrement réduit, mais ne retournera pas en arrière. Par contre, si Ma est élu, on peut se poser la question de savoir, quoi qu'il y ait en ligne de fond aussi, quel parlement il aura, car il y a des élections, oui. Vous l'avez rappelé le même jour, on peut penser que Ma Ying-jeou sera tenté, puisque ce sera son dernier mandat, on ne peut pas être élu trois fois à Taïwan, d'aller plus vite, voire beaucoup plus vite, dans les relations avec la Chine. Et il a été récemment forcé par un câble de Wikileaks qui a été révélé en septembre tout récemment. Il a été forcé de dévoiler un projet qu'il avait gardé secret, d'avancer vers des négociations qui seraient beaucoup plus politiques avec la Chine. Ce qui a créé un certain tollé à Taïwan et qui montre que, comme nous le disions tout à l'heure, il a peut-être interprété son vote de 2008 comme un blanc-seing pour aller de l'avant dans les relations avec la Chine, mais ce n'est pas exactement pour cela que les classes moyennes ont voté pour lui.
Jean-Pierre Cabestan ?
Oui, tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Stéphane Korkuff. Je crois que de part et d'autre, il y a plus de pragmatisme, à la fois du côté chinois qui voit bien que la majorité de la population taïwanaise est pour le statu quo à long terme dans ses relations avec la Chine, et du côté du Parti démocrate progressiste qui sait bien que il faudra que si Tsai Ing-wen est élu, s'appuie sur les accords passés, une quinzaine d'accords, dont l'ECFA, hein, qui est l'accord commercial cadre, que l'an dernier, ou il y a deux ans, le DPP a critiqué, mais avec qui il faudra qu'il travaille, et sur la base duquel il développera des relations négociées de manière plus difficile, plus ardue, mais qui iront dans la même direction, parce que l'économie taïwanaise est de plus en plus dépendante de la Chine et que la Chine a plus de moyens pour influencer à la fois les milieux d'affaires taïwanais, mais aussi indirectement l'opinion publique taïwanaise, pour éviter non seulement d'aller vers l'indépendance, mais aussi d'accepter une forme de modus vivendi avec la Chine. Alors la question, évidemment, c'est de savoir si, et c'est le cas le plus probable, Ma Ying-jeou est élu, des négociations politiques pourront s'ouvrir. Là, je suis très réservé, pour les raisons indiquées par Stéphane Korkuff, c'est-à-dire que l'opinion publique n'est pas prête à de telles négociations, et que à partir du moment où on entre dans ce type de négociations, la question de souveraineté revient au cœur des différences qui opposent Pékin et Taipei. Et donc, comme il y a un conflit de souveraineté fondamental entre la République populaire qui pense que Taïwan fait partie de la Chine populaire et Taïwan qui pense que Taïwan fait partie de la République de Chine, très vite, les négociateurs buteront sur ce conflit en dépit du compromis dont on parle beaucoup sur la Chine unique de 1992 qui, en fait, laisse de côté le conflit de souveraineté puisqu'il ne le résout. Donc, à la fois l'opinion publique taïwanaise n'est pas prête, mais aussi aussi, les Chinois sont à Pékin très conscients de ces différences et ne veulent pas non plus trop précipiter cette négociation, ce qui met Ma Ying-jeou dans une situation assez délicate. Par conséquent, je pense que la difficulté risque d'être de part et d'autre une certaine déception de voir la relation stagner dans les 4 années qui viennent.
Jean-François Dimeglio, je me tourne vers vous. Cette question de souveraineté, il y a une grande souffrance à Taïwan en ce qui concerne cette question. Ce qu'on peut rappeler, c'est que Taïwan n'est reconnu que par 23 pays plutôt petits sur la planète. Qu'est-ce qu'on peut dire du sentiment qui prévaut à Taïwan sur cette question ?
Si vous voulez bien, je vous répondrai dans un deuxième temps, en essayant d'être le plus rapide possible. Vous avez posé une question fondamentale tout à l'heure, qui est la stratégie chinoise vis-à-vis de Taïwan. Je voudrais dire deux choses à propos de ça. Je voudrais dire que, là encore, on a un changement fondamental dans les 10 ans qui viennent de s'écouler, et même dans les 2 ou 3 années qui viennent de s'écouler. La stratégie au sens fort de la Chine, jusqu'à il y a 3 ou 4 ans, l'organisation militaire de la Chine était centrée autour de la région militaire de Nankin, entre autres, était centré autour de la reconquête de Taïwan. C'est-à-dire qu'un certain nombre des instruments militaires et un certain nombre des moyens qui étaient mis en œuvre étaient centrés sur un objectif stratégique, c'était Taïwan. Depuis, la Chine a eu un certain nombre de raisons de s'impliquer dans des conflits qui dépassent la région, a des intérêts aujourd'hui qui dépassent complètement la mer de Chine. Elle regarde maintenant le deuxième arc d'île, elle a un porte-avions, elle va peut-être en avoir 2. Elle cherche à s'étendre dans des régions d'intérêt stratégique et économique pour elle. Taïwan reste important. Pour l'opinion publique chinoise, il y a unanimité sur l'importance de retrouver Taïwan dans la mère patrie. Mais Taïwan, c'est d'une certaine façon diluée dans une stratégie chinoise qui est devenue beaucoup plus globale. Elle n'est pas encore mondiale, mais elle est beaucoup plus importante. Ça, c'est la première chose qu'il faut rappeler. Et puis, la deuxième chose, effectivement, que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi une année électorale en Chine.
On a tendance à l'oublier. Et aux États-Unis, j'allais y venir.
Mais il y a des camps. Il y a un camp qui est marginalisé aujourd'hui, qui est extrêmement agressif, qui est un camp des faucons en Chine, et qui plaide pour une agression, si c'est nécessaire, pour recouvrer Taïwan, si on n'y arrive pas par d'autres moyens. Mais il y a aussi une tendance en Chine, qui est plus nuancée, et qui voit qu'on est sur la bonne voie. Donc la stratégie chinoise vis-à-vis de Taïwan est encore en définition, et elle s'est recomposée dans les dernières années. Je viens à votre question. On a dit tout à l'heure que Taïwan n'était plus dans le giron de la Chine depuis 1949, mais Taïwan n'était plus dans le giron de la Chine depuis 1895, l'a été d'une certaine façon brièvement de 1945 à 1949, et que donc cette identité taïwanaise qui se manifeste dans les médias, dans la création culturelle, elle est très forte, et en même temps, c'est un énorme point d'interrogation. Quand on est taïwanais, on a reçu une influence japonaise, on est comme toutes les sociétés ouvertes de l'Asie orientale, perméables aux influences coréennes, aux influences, bien sûr, de la Chine continentale aussi, mais en termes politiques, il n'y a pas de traduction à ça, et c'est très difficile à trouver, donc frustration, oui.
Alors, j'aimerais, Jean-Pierre Cabestan, je me tourne vers vous, qu'on parle des États-Unis. Elles ont été nombreuses, les visites d'Américains de haut rang cet automne à Taïwan. Il est évident que la perspective des élections n'est pas innocente dans cette accélération de visites. La presse américaine, à l'automne dernier, évoquait l'éventualité d'une remise en question du soutien à Taïwan et suggérait que Washington entre en négociation avec les leaders chinois sur la question de la dette américaine et qu'en échange, les États-Unis mettent fin à l'assistance militaire américaine et aux ventes d'armes à Taïwan, et également mettre un terme à l'accord de défense États-Unis-Taïwan d'ici à 2015. L'économie américaine serait ainsi sauvée. Est-ce qu'il faut prendre cela au sérieux ?
Oui et non. Oui, parce que, alors que la Chine se renforce, développe et modernise son outil militaire, il est évident que pour les États-Unis et tout protecteur potentiel de Taïwan, le coût d'une opération militaire de protection contre une agression chinoise ne peut qu'augmenter. Et donc, les États-Unis sont conscients de cette évolution de l'équilibre militaire dans le détroit de Taïwan et plus largement, je dirais, entre les États-Unis et la Chine. Cela étant, il faut se méfier des débats qui peuvent survenir aux États-Unis, en particulier au cours des dernières années, parce que ce sont des débats qui restent très marginaux par rapport à la position non seulement du Pentagone, mais de l'ensemble de l'administration américaine sur la question de Taïwan. Et cette position des États-Unis, elle est d'abord structuré par un accord qui est le Taiwan Relations Act, qui date de 1979 et qui contraint les États-Unis de fournir à Taïwan des armements défensifs, mais aussi à ne pas rester indifférent à toute situation qui pourrait mettre en danger la sécurité de Taïwan. Et donc, cela place les États-Unis dans une confrontation objective sur le plan militaire et stratégique avec la Chine, et ça, à long terme. Alors, il y a eu, évidemment, des pressions accrues de la Chine sur les États-Unis pour ce qui concerne les ventes d'armes américaines à Taïwan. Ça fait partie du jeu chinois, qui est d'essayer d'enfoncer un coin entre, d'un côté, les États-Unis, qui sont l'objet principal des critiques chinoises, et Taïwan, et l'administration Ma Ying-jeou en particulier, qui n'a fait l'objet d'aucune critique pour les achats d'armement dont elle a besoin pour maintenir crédibilité dans la défense taïwanaise face à la Chine. Donc d'un côté, la Chine critique les États-Unis, mais se garde bien d'élever la moindre objection aux acquisitions d'armement par l'administration Ma Ying-jeou. Donc vous avez une situation que l'on ne peut pas changer structurellement dans les années qui viennent, et qui donc, à mon avis, va continuer à impliquer les États-Unis dans le Pacifique occidental, d'abord dans la sécurité de Taïwan, mais dans le Pacifique occidental plus largement. Et là, ça se rattache à une observation que faisait Jean-François Desmiglio il y a un instant, c'est que Taïwan est devenu de plus en plus, je dirais, une excuse, un prétexte, dans une confrontation stratégique et militaire entre les États-Unis et la Chine, qui dépasse de loin Taïwan. En d'autres termes, dans la stratégie chinoise, Taïwan, c'est un terrain sur lequel elle peut tester un certain nombre de capacités militaires nouvelles dans sa confrontation avec les États-Unis, notamment, par exemple, dans une opération anti-porte-avions américain, dans une opération de guerre cybernétique contre les États-Unis ou dans une opération de guerre anti-satellite contre les États-Unis. Donc, Taïwan est un terrain de test des nouvelles capacités militaires chinoises. Donc, c'est pour cela qu'il ne faudrait pas accorder une trop grande importance à ces débats, qui sont des débats souvent entre académiques et qui traduisent une certaine inquiétude d'une partie de l'opinion publique américaine, mais d'un autre côté, qui ne sont pas conduits à modifier la position politique, diplomatique et militaire des États-Unis par rapport à Taïwan et par rapport à la Chine.
Donc la place stratégique de Taïwan est toujours bien là, on l'a compris avec ce que vous avez dit, Jean-Pierre Cabestan. Stéphane Corcuff, Jean-François Desmiglio évoquait les angoisses qu'il y a à Taïwan vis-à-vis de la Chine. Est-ce qu'il y a aussi des angoisses à Taïwan en ce qui concerne un éventuel lâchage des États-Unis, en tout cas une prise de distance, même si Jean-Pierre Cabestan rappelait donc la place stratégique pour les Chinois comme pour les Américains de Taïwan dans la région?
Ça dépend de qui on parle. La population elle-même, oui, un petit peu, mais bon, sans vouloir être méchant, pour la population taïwanaise, elle n'est pas totalement apte à faire des calculs géopolitiques extrêmement informés. Alors c'est vrai qu'il y a un petit peu cette angoisse, mais d'après ce que je comprends de la presse, disons, en chinois à Taïwan, les débats américains que vous avez évoqués, sur lesquels Jean-Pierre est revenu, n'ont pas été beaucoup discutés, et n'ont pas inquiété plus que ça. Je rappellerai quand même un détail, c'est que lors de son discours à Tokyo, il y a 2 ans et demi ou 3 ans, Obama a quand même rappelé l'importance capitale pour les États-Unis d'assurer la défense de Taïwan. Pas de défendre Taïwan, d'assurer la défense de Taïwan. Et jusqu'à preuve du contraire, le Taiwan Relations Act continuera à jouer son rôle. D'ailleurs, en fait, il n'est pas vraiment dans l'intérêt des États-Unis de laisser tomber Taïwan, bien au contraire. Et ce qui est sûr, c'est que depuis toujours, et depuis 79, ils sont contre tout changement de statu quo dans un sens comme dans l'autre. Donc, tour à tour, ils s'opposent aux rouges, aux bleus ou aux verts, selon la politique qui est menée et qui risquerait de déstabiliser le détroit. C'est vraiment une réelle politique totale qui frustre pas mal chacune des couleurs que je viens de mentionner, mais qui me paraît être une façon de lisser sur la longue durée ce que d'autres appellent des va-et-vient de la part des Américains, qui me paraissent avoir une politique extrêmement cohérente, en fait, sur 30 ans. Mais au-delà de l'intérêt pour les États-Unis de garder Taïwan et le peu d'intérêt qu'ils auraient à laisser tomber Taïwan, j'ai eu posé une question, j'aurais pas forcément la réponse. Moi, je me demande si c'est vraiment dans l'intérêt aussi de la Chine de récupérer Taïwan. Parce qu'en fait, on raisonne encore aujourd'hui sur des paradigmes tout à fait dépassés. La Chine évolue à toute vitesse et Taïwan évolue énormément. On a beaucoup parlé de l'évolution de Taïwan dans cette émission et notamment le réancrage au centre du KMT et du DPP. La Chine elle-même va vers énormément de modération, elle a énormément de questions à gérer, sa société est de plus en plus ouverte, les esprits évoluent. Et j'ai envie de poser la question, bon, Jean-François parlait d'une unité de récupérer Taïwan, tout à fait, et elle est perceptible quel que soit le degré de discours qu'on ait, mais je me demande si c'est pas en partie une unité de façade et de plus en plus. Dans l'intimité des discussions non politiques et sans témoins qu'on peut avoir avec des intellectuels chinois, on entend de plus en plus des arguments qui pourraient être assez surprenants et qu'on n'aurait jamais pu entendre il y a ne serait-ce que 5 ou 10 ans, et qui, dans leur forme la plus aboutie, peuvent être « Oh, vous savez, moi, si j'étais taïwanais, je ferais bien comme eux, j'aurais aucune envie de me réunifier avec la Chine. » Mais en allant au-delà, dans une analyse politique ou géopolitique, l'unification de la Chine avec Taïwan, c'est un sacré soc apporté au modèle politico-social, voire idéologique, sur lequel la Chine vit aujourd'hui. Et je suis tout à fait persuadé, de mon côté, que pour peu que Taïwan n'abandonne pas ce nom officiel qu'elle a de République de Chine, que rappelait Jean-Pierre tout à l'heure, paradoxalement, la Chine ne reconnaît pas. La République populaire ne veut pas reconnaître la survivance de ce régime qui l'a précédé à Taïwan. Mais le paradoxe, c'est que le jour où Taïwan l'abandonne, la Chine sera extrêmement mécontente. Donc, tant que Taïwan n'abandonne pas cette espèce de fiction d'une identité chinoise qui est conservée par cette constitution apportée de Nankin en 47, eh bien, en fait, la Chine peut tout à fait s'accommoder d'un statu quo actuel dans la mesure où, qu'il soit vert ou bleu, les gouvernants de Taïwan aillent de l'avant dans les relations avec la Chine. Et à ce titre, je rappelle que, en fait, le démarrage des relations de plus en plus intenses avec la Chine ne date pas de Ma Ying-jeou, ni même d'ailleurs de Chen Shui-bian, qui a fait beaucoup plus que ce qu'on peut penser, mais de Li Tengrui et des années 90.
Alors très rapidement, pour conclure, Jean-Pierre Cabestan, est-ce l'intérêt de la Chine de récupérer Taïwan? La question était posée par Stéphane Corcuff.
Oui, c'est son intérêt fondamental, mais d'un autre côté, la question, comme le disait Stéphane, est beaucoup plus comment on qualifie le status quo. Alors aujourd'hui, la qualification du status quo, c'est qu'il n'y a qu'une seule Chine officielle, la République populaire, et donc la République de Chine n'existe pas. Mais on voit bien dans les débats, notamment entre intellectuels chinois, que l'idée qu'il y a une entité politique qui s'appelle République de Chine, mais qui appartient à la Chine sans appartenir à la République populaire, fait son chemin en Chine. Je ne veux pas dire par là qu'elle sera acceptée par le gouvernement chinois dans les années qui viennent, mais c'est la réalité sur le terrain qui est importante et que, sans pouvoir le dire, la Chine accepte qu'il y ait en fait deux États chinois ou deux entités politiques chinoises qui vont coexister à long terme et que c'est la meilleure solution pour Pékin comme pour Taipei, comme pour Washington d'ailleurs. Et là, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Stéphane Corcuff. L'intérêt des États-Unis est de maintenir cette stabilité et c'est aussi, dans une large mesure, l'intérêt de Pékin qui a d'autres préoccupation et qui vit une incertitude politique à long terme quant à son régime intérieur. Et donc, le véritable défi n'est peut-être pas celui que l'on vit aujourd'hui, de cette menace chinoise, mais peut-être celui de la démocratisation de la Chine qui redistribuera les cartes à travers le Détroit et forcera peut-être Taïwan à une unification qu'elle ne souhaite pas aujourd'hui.
Je vois qu'en studio, Jean-François Dimiglio, vous approuviez Jean-Pierre Cabestan.
Oui, j'approuve en fait la question de savoir si la Chine a intérêt à récupérer Taïwan. Sa réponse est en Chine et c'est dans l'évolution de la Chine. Si la Chine évolue mal, elle aura intérêt à récupérer Taïwan parce que ce sera un facteur d'unification de son opinion, ce qui devient une opinion. Si la Chine évolue très bien, ben, le rapprochement sera de lui-même. Il n'y a pas de récupération au sens fort du terme qui s'imposera.
C'est la fin de Géopolitique, le débat consacré à Taïwan. Merci à nos invités. Jean-Pierre Cabestan, professeur et chef du département d'études internationales à la faculté de sciences sociales à l'Université Baptiste de Hong Kong. Stéphane Corcuff, maître de conférences en politique chinoise à Sciences Po Lyon, chercheur à l'Institut d'Asie orientale en délégation au Centre d'études français sur la Chine contemporaine, antenne de Taipei, et auteur d'un ouvrage académique en chinois qui vient de sortir à Taipei sur la nature de sa relation avec la Chine continentale depuis 400 ans, intitulé « Voisin de la Chine, la liminalité de Taïwan », et Jean-François Dimiglio, président de Asia Centre. Géopolitique était signé Marie-France Chatin. Merci à la documentation de RFI, à Nathalie Laporte pour la réalisation et la technique. Demain, Géopolitique se penchera sur les monarchies de la planète. À demain.